Voilà, alors nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 14. Nous avons ici la seconde prière de Paul pour les chrétiens qui sont à Éphèse. La première, elle est au chapitre 1, et les versets 16 à 19. Et puis la seconde, ici, dans le chapitre 3, et ce sont les versets 14 à 19. Donc nous allons lire, c'est à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Éphésiens 3, verset 14. Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Là, ça c'est une prière, hein. Ça c'est pas de la répétition et c'est pas du léger. Là, c'est une prière, et une prière qui est inspirée de l'Esprit de Dieu. Donc c'est selon la pensée de Dieu. Romains 8 nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous assister dans la prière, pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Souvent, nous prions selon nos besoins. Et il nous dit de prier selon sa volonté. Là, vous avez remarqué, dans la première prière, donc au chapitre 1, et à partir du verset 18, des versets 18 et 19, le chapitre 1, il dit... La prière, voilà ce qu'il demande dans la prière. Il dit, parce que si je lis à partir du verset 15, la phrase commence, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Donc voilà. Et il commence, verset 14, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et il dit, ça c'est une prière. Et bon, après, il faut méditer longtemps, hein, pour savoir tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis, cette prière que nous venons de voir, et vous remarquerez, dans ces prières, il est en train de prier, intercéder pour les saints qui sont à Éphèse. Lui, il est en prison. Il est au loin, et il prie pour eux. Et il prie, croyez-moi, il prie ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et vous remarquerez qu'il ne demande pas que Dieu leur donne de la richesse. Il ne demande pas qu'il leur donne de la santé. Il ne demande pas ces choses-là que nous demandons beaucoup dans nos prières. Hein. S'il fallait qu'on enregistre nos prières et puis après qu'on fasse une étude, on verrait qu'il demande... On demande pour beaucoup de choses, mais de l'immédiat. Hein, et parfois même nos prières, c'est de l'urgence. Bon, il y a des situations comme ça aussi, mais est-ce que nos prières, c'est un moment où on lui parle, hein, si, si en tant qu'enfant, j'allais voir ma mère uniquement, et c'était souvent le cas, « Maman, j'ai faim, maman, je suis, maman, j'ai mal, maman, ceci, cela », et puis rien d'autre. Et puis une fois par an, parce qu'il y a une fête des mères, alors on lui dit qu'on l'aime. Mais vous savez, souvent la vie chrétienne, non, les chrétiens font la même chose. Hein. C'est « donne-moi, 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 fais-moi ». Et puis, de temps en temps, oh, « Seigneur, tu sais que je t'aime, hein. Et je pense à toi. Surtout, je pense à toi quand j'ai besoin de quelque chose. » Mais remarquez ici, dans cette prière, au verset 14, il dit « Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux, afin qu'il vous donne... selon la richesse de sa gloire, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » Cette expression va s'arrêter là. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Vous savez, s'il y avait un milliardaire qui vous donne 10 euros, il vous donne de sa richesse. Mais s'il vous donne 1 million d'euros, il vous donne selon sa richesse. C'est donner de sa richesse, c'est une aumône. Donner selon sa richesse, ça c'est un don généreux. Et l'apôtre Paul demande à Dieu, il dit, donne selon ta richesse. Et souvent on se dit, moi je me contente seulement de quelques miettes du Seigneur. Oui, mais lui il est généreux et il n'est pas plus pauvre. Pas plus qu'une maman... va épuiser son amour parce qu'elle montre de l'amour. Hein? Et il dit, c'est, quand on donne de sa richesse, on donne une portion de sa richesse. Mais quand on donne selon sa richesse, on donne en proportion de sa richesse. Et c'est autre chose. Et là, l'apôtre Paul, dans sa prière, eh bien, parce qu'il sait qu'il prie selon la volonté de Dieu, eh bien, il demande que ça soit généreux. Jacques disait dans son épître, chapitre 4, verset 3, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il dit « Si tu demandes seulement parce que, Seigneur, je commence à me lasser de ce jeu vidéo, je voudrais bien un nouveau. Bah, » Il dit « Mais toi, tu demandes selon ta passion, mais tu ne penses pas à moi. » Pourquoi veux-tu que je te le donne? Surtout que ça va encore te distraire de moi. Paul prie selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu, ce n'est pas quelqu'un à qui on... Hein, comme le Père Noël, on lui fait sa liste de ce qu'on veut. Et puis on espère que ça vient. Et ça ne vient pas. Mais c'est, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu trouves de meilleur pour moi? Et je prie selon sa volonté pour moi. Et lorsque l'apôtre Paul sait que quand il prie selon la volonté de Dieu, eh bien là il peut demander à ce que Dieu soit généreux, il dit, écoute, ne donne pas seulement une aumône, mais donne-moi selon ta richesse, en proportion de ce que tu as et ce que tu possèdes. Vous remarquez aussi, verset 4, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Jésus adresse sa prière au Père. Paul adresse sa prière au Père. Bon, Jésus l'a fait aussi. Et même lorsque les disciples sont venus voir Jésus, il dit « Enseigne-nous à prier ». Regardez dans Luc chapitre 11, verset 2, l'évangile de Luc chapitre 11, verset 2. Les disciples venaient de l'entendre prier. Le plus souvent, ils ne l'entendaient pas parce qu'il se levait de bon matin, il allait dans un lieu seul et il priait. Mais là, Luc chapitre 11, et je commence à lire verset 1, il dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean enseignait à ses disciples. Peut-être qu'eux voulaient, enseigne-nous une prière. C'est-à-dire, enseigne-nous une prière que quand on la prie, on obtient tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui aiment ces prières-là. Hein, c'est un peu du genre ouvre-toi sésame. Hein. On veut un truc magique. Que ça, quand ça déclenche et puis ça fait tomber les bénédictions du ciel. Et il y en a qui enseignent la parole de Dieu un peu de cette manière-là aussi. Il dit non. Jésus dit, écoutez. Et au verset 2, il dit, quand vous priez, dites. Et quel est le premier mot ? Père. C'est pas nous qui appelons Dieu Père, c'est lui qui nous a dit de l'appeler Père. C'est Jésus qui nous a enseigné à l'appeler Père. Il a dit, quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à votre Père céleste. Hein, le Notre Père, hein, comme le nom le dit, c'est notre Père. Hein, c'est notre Père qui est aux cieux. Mais c'est pas seulement mon Père, mais c'est le Père à nous. Je reconnais le fait que nous sommes toute une famille. C'est notre Père, c'est un Père, c'est le Père modèle. C'est le Père qui cherche toujours le bien de ses enfants et qui veut donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et donc la prière, et vous n'avez pas adressé la prière à quiconque autre, n'importe quel saint, n'importe quel autre, il n'y a pas la... Il a dit, dites Père, et directement. Et ils n'avaient pas besoin de passer par quelqu'un d'autre et dire, pasteur, tu peux prier le Père Céleste pour moi ? Non, non, vas-y toi-même. Pourquoi tu ne peux pas le faire ? Ah ben règle, si tu as des péchés dans ta vie, règle-les, comme ça tu pourras lui parler. Et là, l'apôtre Paul, il s'adresse à cette prière, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Oh, vous avez remarqué, il dit, je fléchis les genoux. Alors peut-être vous dites, ah ben voilà, je cherchais comment il fallait se mettre quand on prie. Eh bien écoutez, là il a dit, je fléchis les genoux, et bien, on peut prier à genoux. Vous lisez dans la Bible, vous cherchez un peu les positions qu'avaient les différents hommes de Dieu dans la prière. Ben vous avez Abraham ou Salomon qui se tinrent devant l'Éternel. Debout devant l'Éternel. Il dit même de Salomon qu'il a levé les mains vers le ciel, dans le sens de recevoir. Après, on a aussi... Jésus dans le jardin de Gethsémané, puis il s'est jeté la face contre terre. Et donc, c'est pas tellement qu'il y a une position, et c'est pas la position du corps qui fait quelque chose, mais rien n'empêche que la position du corps reflète le sentiment intérieur. Et vous savez que quand on est joyeux, on lève le visage. Quand on est triste, on baisse la tête. En fonction de ce que l'attitude du cœur et comment, alors que ce soit à genoux et surtout quand on est seul, hein, c'est pas la peine de se mettre comme ça devant tout le monde et puis se faire remarquer. Il dit quand tu prie, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret. Alors c'est surtout quand vous êtes seul, alors là prenez la position qui vous convient. En fonction de ce que vous ressentez en vous. Hein, si c'est plaider, en général, on est dans une position. Quand c'est la louange, c'est une autre position. Mais prenez quelque chose qui est naturel, une expression naturelle de votre corps. Puis on s'en fonction de vos personnalités. J'avais un frère en Algérie que... Tous les matins, je l'entendais, il était dans la chambre, ben lui, il priait à haute voix et puis il marchait. Et il marchait dans... C'est en marchant qu'il... Et alors ? Ben, s'il est comme ça, il est à l'aise et ça... Hein, surtout si vous avez un problème de vous endormir quand vous priez. Ça ferait du bien de marcher en priant. Certains vont dans un lieu, dans le parc, et puis en marchant, ils prient. Peu importe. Si vous avez du mal à vous concentrer, priez à haute voix. Là, il faut formuler la prière. Parce que si c'est seulement dans notre tête, alors notre tête, elle peut penser à 36 choses en même temps. Il faut être pratique. Là, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. C'est ce serviteur qui est devant son maître et qui lui demande une grâce. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père et je prie pour vous. Et comprendre que l'apôtre Paul était en prison quand il écrivait. Donc, ce n'était pas forcément une position confortable. Il n'avait pas l'oreiller là, on lui a pas, il a dit hey, soldat, tu peux pas m'amener un oreiller là, je vais prier. C'était autre chose. Bon, d'autre part, ne cherchez pas une position vraiment inconfortable, parce que c'est pas parce que vous souffrez pendant que vous priez que ça ira plus loin. Hein. Et puis il y en a qui pensent que c'est en criant. Non, ça va pas plus loin parce qu'on crie. Il y a que les prophètes de Baal qui criaient parce que eux ils avaient l'impression qu'ils n'entendaient rien, leur Dieu. Mais Dieu sait ce à quoi je pense. Alors, je n'ai pas besoin de crier pour lui. Je parle à haute voix, c'est peut-être pour m'ouvrir, me concentrer. Hein, c'est plus pour moi-même, pour savoir de quoi je parle. Mais lui, il sait, avant même que ça sorte de la bouche, il sait déjà de quoi j'ai pensé. Et j'ai dit, je ne vais pas demander ça. Il le sait. Il sait tout ce qui s'est passé dans ma tête, il le sait. Comme on disait dimanche dernier, le diable, il ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Il attend qu'on prononce quelque chose. Mais Dieu sait ce qu'on pense. Il connaît toutes nos pensées. Il nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Bien sûr. Dieu est l'origine de tous les humains. Il a créé Adam, il a créé Ève, il est le père de tous dans le sens de créateur, de sens d'origine, et même dans la généalogie de Marie, il est même dit Adam, fils de Dieu. Hein, donc dans ce sens-là qu'il l'a créé, il est son origine. Mais sinon, Dieu n'est père que pour... il est père pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, hein, ceux qui ne le connaissent pas comme leur sauveur, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils ne peuvent pas dire père, parce qu'il n'est pas leur père. Ils ne sont pas nés de lui. Hein, il n'y a pas eu cette nouvelle naissance. Alors là, ils sont obligés de dire « Oh Dieu !» Et ils implorent son attention. Mais... pour l'enfant de Dieu, hein, que celui qui a reçu Jésus-Christ, eh bien, le Père céleste, il est Père uniquement pour ceux qui ont cru. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent le Notre Père, par exemple, ils disent le Notre Père et Dieu, il n'entend rien du tout. Ils auraient pu réciter les paroles de la mère Michel, ça aurait été pareil. Ils sont pas son. C'est pas leur enfant, c'est pas son enfant. Et j'appelle pas n'importe qui papa. J'appelle papa celui de qui je suis né. Parce qu'il y a une relation. Il y a quelque chose entre nous. Et quand je dis papa à mon père, eh bien il m'écoute. Je dis papa à quelqu'un d'autre, il me dit, mais où je te connais, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Il dit, mais quel est notre lien? Quel rapport? Qu'est-ce que je te dois, moi? Hein, il n'y a rien entre nous. Mais quand on est né de Dieu, il y a quelque chose entre nous. Surtout Jésus-Christ. Il y a une vie nouvelle et nous pouvons, et on dit Père. Et on s'adresse au Père, tel que Dieu nous a enseigné. Bon, j'ajoute, il nous a dit, vous adressez votre prière au Père et vous demandez en mon nom. Donc c'est pour ça qu'on ajoute au nom de Jésus-Christ. Bon, quelque part, dans nos prières, on fait toujours mention du nom de Jésus-Christ. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien entre nous. Hein. Regardez maintenant la prière. Qu'est-ce qu'il demande au verset 16? Dit, je demande qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Premièrement, il demande quelque chose pour l'homme intérieur. Nous, souvent, nos requêtes sont pour l'homme extérieur, hein, pour le corps. Là, il demande pour l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ce nouvel homme, l'homme nouveau qui vient après la nouvelle naissance. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, et verrez comment l'apôtre Paul utilise ce mot de l'homme intérieur et l'homme extérieur. 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets 16 à 18. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Alors vous voyez comment il dit l'homme extérieur, il dit, ah bon, avec les épreuves, et il parle de tout ce qu'il a subi, et toutes les lapidations, les coups de fouet qu'il a reçus, et tout la fatigue, il a enduré le climat, il a enduré les voyages, il a enduré la mer, il a enduré toutes ces choses. Il dit, oui, l'homme extérieur, il se détériore, c'est sûr. Et même si vous restez dans votre lit, n'importe comment vous allez vieillir. Hein, n'importe comment, il se détériore. Il dit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Parce que là, il y a une autre vie qui se développe. Il parle de l'homme intérieur. Vous savez, il nous dit, Éphésiens chapitre 2, et le premier verset, il dit, nous étions morts dans nos péchés et nos offenses. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons un homme nouveau, une nouvelle nature, un homme nouveau qui se crée en nous. Et cet homme intérieur, eh bien, Paul prie pour l'homme intérieur. Il dit que l'homme intérieur, bon, d'accord, Seigneur, bien sûr, le temple, il faut s'en occuper un petit peu, mais surtout, avant tout, première préoccupation, c'est l'homme intérieur. Il dit, et donc il dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et il dit, son esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc, ça fait déjà le Père, c'était la première personne de la Sainte Trinité. Là, on voit la deuxième personne de la Sainte Trinité et son œuvre parmi nous. Il demande au Père Céleste, il dit, que ton esprit nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, dans notre nouvelle nature, dans cette nouvelle création, comme il dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit que nous soyons puissamment fortifiés. Certains chrétiens, parce que cet homme intérieur n'est pas entretenu, alors c'est Hébreux chapitre 5 qui un peu décrit cette situation-là, parce qu'il est possible de ne pas se développer. Hébreux chapitre 5 et versets 13 et 14. Je vais commencer au verset 12. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous êtes encore au biberon spirituel. Alors que depuis longtemps, vous devriez être en train de vous former les gens. Il dit, vous êtes encore au lait. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il dit, Bon, si on est nouveau dans la foi, c'est tout à fait normal. Un bébé, il ne peut pas être autrement, il ne peut pas être mature. Mais c'est que lorsque ça dure, là, l'autre, il dit, moi, je suis chrétien depuis 25 ans. Et oui, mais ça fait 25 ans que tu répètes la première année. Tu n'as pas 25 ans de maturité. Tu es encore au lait. Et donc le Seigneur nous demande à avancer. Et c'est à nous, de chacun, de dire, mais quand je lis la parole, est-ce que je ne comprends pas plus que celui qui vient de démarrer? Est-ce que je suis encore là où je peux... S'il fallait expliquer, je ne saurais rien expliquer, j'ai rien, je ne sais pas quoi faire avec. Ben, c'est que je suis encore au lait. Mais quand je commence à saisir et quand je commence à pouvoir... Après là, je commence à être un grand frère. Une grande sœur qui est en train de, là de d'aider les plus jeunes. Et c'est la chose normale, dans une famille normale, c'est que les plus âgés aident les plus jeunes. Et ce qui arrive, et dans une église, c'est une famille aussi. Et il n'y a pas, c'est pas que monsieur le pasteur qui fait ça, qui fait la cuisine. Hein, c'est, on est tous dans une famille, il n'y a pas que maman qui fait tout. C'est... Tous ensemble, c'est une vie de famille où tous portent, et chacun selon ses capacités, et chacun au fur et à mesure qu'il avance. Comme j'étais un frère aîné, hein, j'étais un aîné dans la même famille, ça m'a toujours embêté que les plus jeunes, ils veulent faire tout ce que font le grand. Et qu'ils attendent d'avoir mon âge, hein, pour faire ce que je fais. Papa, il m'achète un vélo, eux, ils veulent un vélo. Mais attends, hé! J'ai déjà 13 ans, moi. Mais vous savez, les chrétiens, c'est pareil. Hein. Mais aidons. Hein, c'est au grand frère, bon, peut-être que je ne l'ai pas toujours fait, mais au grand frère de dire, écoute, viens, je vais t'aider. Hein, je vais t'aider à apprendre à faire du vélo. On va avoir un vélo pour toi, et puis on va t'aider, je vais t'aider. Mais c'est ça la vie chrétienne. Mais il faut regarder, vous dire, mais est-ce que je suis encore enfant? Je suis encore au lait. Il dit, oh, moi, tout ce qu'il me faut, ouais, je lis un petit verset le matin dans le psaume, louer l'Éternel. Rien que ce mot-là, ça me suffit largement. Ça, c'est un petit bonbon. Et puis, voilà, dans la vie, tu serais pas content avec ça. C'est, est-ce que... Je cherche à comprendre. Tout à l'heure, on parlait de la connaissance de Christ. Et plus je connais, plus je suis confiant dans la vie. Parce que je sais comment il fonctionne, j'ai appris, j'ai vécu les choses avec lui, je sais comment il fonctionne, je sais comment il est fidèle, je sais comment il intervient, je sais... J'avance. Donc ici, je reviens à Éphésiens chapitre 3 et il dit, je demande qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, c'était cet esprit qui est là, hein, c'est Jésus l'a demandé du Père. Il a dit aux disciples dans la chambre haute, il a dit, je demanderai au Père qu'il vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et il demeurera avec vous, et il sera en vous. Et il a même dit, et c'est lui qui, en fait, il vous conduira dans la vérité, et il glorifiera Christ. Hein, Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Il dit, chapitre 14, il dit, il demeurera avec vous, il sera toujours avec vous. Donc l'apôtre Paul dit, c'est une chose, quand tu viens à Christ, tu es né de l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu est présent, mais c'est une chose qu'il soit présent, c'est autre chose qu'il soit en train d'agir et de m'enseigner. Par sa présence, je suis scellé, je suis à Dieu et pour de bon. Par son œuvre en moi, je me développe et je grandis. Et vous savez, comme vous voulez tester une amitié, eh ben soyez dans le besoin et vous allez voir ce que vaut une amitié. Eh bien, pour savoir ce que je vaux spirituellement, ben, il me faut une épreuve. Et ce sont les épreuves de la vie qui me donnent un peu une idée de où je suis. Je ne sais pas si vous avez jamais pris ces tests où ça commence très facile et puis ça devient, le niveau augmente au fur et à mesure. Et puis on essaye de voir jusqu'à où on peut aller, et jusqu'au point où on cale. Et ça se donne une idée de notre niveau. Là, c'est un peu ça le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Hein, mais heureusement que lui, il ne cherche pas à nous faire couler. Hein, et donc il nous dit, il ne nous tente pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Hein. La présence du Saint-Esprit est très importante. Si vous lisez les Actes des Apôtres, eh bien, vous vous rendez compte que l'Esprit de Dieu, il est partout, là. Ça a commencé avec l'Esprit de Dieu. Jésus a même dit, allez m'attendre à Jérusalem, et moi, je vous envoie l'Esprit Saint. Il descendra sur vous. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. S'il a dit je vous envoie le Saint-Esprit, c'est parce qu'on en a besoin. C'est pas parce que le Saint-Esprit voulait faire un petit séjour sur terre, hein, c'était parce que nous en avons besoin. Et parce qu'il connaît notre ennemi aussi. Et il sait que nous, eh bien, sans l'œuvre de l'Esprit en nous, on ne fera aucun progrès. On ne peut rien comprendre de la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Il n'y a aucune croissance spirituelle sans l'œuvre de l'Esprit en nous. Romains chapitre 8, il nous dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous dit que c'est grâce à l'Esprit qu'on peut crier Abba, Père. Il nous dit que dans vos prières, vous ne savez pas quoi demander, mais l'Esprit Saint prend assez et vous aide pour prier. On a besoin de l'Esprit Saint pour notre vie chrétienne. Il est là. Vous avez peut-être entendu des gens qui disent ah ben, vous les baptistes, vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Eh bien, si, on croit, mais pas n'importe comment. On croit au Saint-Esprit selon la parole. Sa présence est discrète, mais elle est indispensable. Et c'est lui qui fait cette œuvre en nous. Nous sommes aussi nécessiteux que l'Église primitive de l'œuvre de l'Esprit. C'est pas parce que on a de l'histoire qu'on n'a pas besoin de lui, non. On a besoin de l'Esprit Saint. Et autant lui ne demande pas de l'attention, il ne demande pas qu'on parle de lui tout le temps, parce qu'il a dit, il vous parlera de moi, il rendra gloire à moi, hein, Jean chapitre 16. Mais ce n'est pas pour ça que je vais l'ignorer. J'ai besoin de lui. Hein. Regardez, la question c'est maintenant, c'est pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a besoin j'ai besoin d'être puissamment fortifié par son esprit. Eh bien, regardez verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il a dit, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, vous avez besoin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour que Christ puisse habiter en vous. Remarquez, ce n'est pas seulement être présent, c'est habiter, demeurer, établir résidence, être à l'aise. Hein? Ouais. C'est une chose de dire, ben oui, Jésus-Christ, je l'ai dans mon cœur, c'est bien, je suis content, là, un jour j'aurai besoin de lui. C'est autre chose de dire, Jésus, écoute, ma vie, eh ben, fais comme chez toi. Des fois, en plaisantant, je dis aux invités, je dis, écoute, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que c'est chez moi. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça à Jésus aussi. Il dit, écoute, je veux bien t'avoir dans ma vie, mais bon, sache que bon, j'ai ma vie. Hein. Il ne faut pas que tu me déranges trop. J'ai des choses que j'ai envie de faire, j'ai des choses que j'aime faire, j'ai des amis que j'aime avoir, et tout ça. Donc, bon, hein, fais-toi discret, mais bon, je suis content que tu sois là. Non, non. Il dit, j'ai besoin de l'œuvre de l'Esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, il rentre, il fait le ménage. Et il installe la maison pour que Jésus-Christ puisse être à l'aise et que Jésus-Christ puisse être pas seulement le sauveur, mais qu'il puisse aussi être le Seigneur de ma vie. Hein, c'est facile de le dire, ouais, le Seigneur Jésus. Oui, mais est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie, hein? Il dit afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand c'est dit le cœur, vous savez, le cœur, on pense à c'est le centre de l'affection, des passions, c'est ce que j'aime faire et ce que j'aime faire, c'est finalement ça décide de ce que je fais. Et il dit, ben, c'est là où il veut résider. C'est là où les décisions sont prises. Là où l'influence est là pour la vie et toutes les choses de la vie. La Christ doit avoir son mot à dire dans tout ce que je décide, dans tous les lieux où je vais, dans tout ce que je lis, dans tout ce qui me passionne. Je dis, Jésus, qu'est-ce que tu penses ? Il y a un livre qui existe, je ne sais pas s'il est encore édité, mais il y a un livre qui avait été écrit, le titre c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Et si vous le trouvez, peu importe dans quel état il est, lisez-le. C'est bien de penser, c'est une histoire inventée, mais où toute une ville, les gens se sont demandé « Que ferait Jésus à ma place ?» Et donc, à chaque fois, avant de faire quelque chose, ils ont dit, mais Jésus, comment est-ce qu'il réagirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Avant toute chose. Et finalement, ça a transformé cette ville. C'est imaginaire, mais c'est la question, c'est que ferait Jésus à ma place? Hein? Pas comme j'imagine Jésus, mais comme il est réellement. Qu'est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'il répondrait? Comment il réagirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Et là, ça, c'est quand Jésus habite en nous. Vous savez, là, on est en train de parler de Christ qui habite en nous, et ça, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein. Donc, on a vu le Père, on a vu l'Esprit, et là, c'est Christ. Et ils font partie de notre vie. Jésus dit aux disciples, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc c'est sa volonté, il veut être là. Et c'est grâce, parce que l'Esprit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, l'Esprit est là. Maintenant je laisse l'Esprit remplir, hein, il dit soyez remplis de l'Esprit lorsque je laisse prendre contrôle. Et il prépare la maison pour que Christ puisse être là et régner et être chez lui. Est-ce que la question c'est est-ce que Jésus influe sur toutes mes valeurs, sur mes pensées, sur mes ambitions, sur ses désirs? Est-ce que lui il a son mot à dire, pas seulement son mot à dire, mais c'est ça que tu veux. Alors c'est comme ça qu'on va y aller. Je continue. Verset 17, il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Vous avez vu ces mots-là ?« Enraciné et fondé. » C'est deux mots forts qui veulent dire « enraciné », vous imaginez ce que vous voulez, mais vous pensez à des arbres, et puis si vous voulez que ça résiste au jour de la tempête, il faut que les racines descendent. Hein. Et puis fonder, c'est la base. Vous demandez à un architecte, vous dites la fondation, là, ça coûte cher, là, et puis ça ne se voit même pas. Et puis ça sert à quoi la fondation? Il dit, monsieur, la fondation, c'est essentiel. Et plus la fondation est profonde, plus la maison peut monter haut. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie aussi, hein? Plus les racines, plus la fondation est profonde, plus on peut élever. Vous savez, Jésus avait des illustrations très parlantes et tout le monde entend, mais vous rappelez dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, il a parlé de celui qui, pas seulement qui lit la parole, mais qui la met en pratique. Il a dit, il est comme une personne qui construit une maison. Celui qui écoute seulement la parole, qui dit, ah, c'est bien. C'est comme celui qui construit sa maison, mais sur le sable. Sans fondation, sans rien, c'est posé sur le sable. Et quand le soleil brille, tant que le soleil brille, ah, c'est joli. Ah. Et en plus, il a pas les frais de la fondation, donc il a pu mettre plus de frais dans la maison, elle est plus belle. Mais le jour de l'épreuve, le sable, et puis la maison après, et après ça commence à fissurer et ça va plus. Mais il a dit, tandis que celui qui lit la parole, qui la médite, qui la met en pratique, c'est comme celui qui pose sa maison sur une bonne fondation, sur un rocher. Il dit, ah, parce qu'il a fait tellement de frais sur la fondation que la maison elle est un peu simple. Ah oui, mais après la tempête, elle est encore là. Et Jésus dit, vous savez, c'est pareil. Hein. Et l'apôtre Paul dit, écoutez, ce que je demande, c'est que vous puissiez être enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus sûr, de stable. C'est ce qui va donner de la stabilité, de la permanence, de la continuité, de la persévérance à votre vie. C'est le degré d'amour. Dieu est amour. Dieu est persévérant. Dieu est fidèle. Dieu est patient. Dieu est bon. Parce qu'il est amour. Et donc, si nous avons l'amour, et nous sommes fondés dans l'amour, et enracinés dans l'amour, et on nous puisons dans l'amour tout le temps pour tout, eh bien, on va vivre une autre vie. C'est pas le caractère qu'il fallait dire, c'est le fait d'être enraciné dans l'amour de Dieu. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Oh là là, tout ça, pour commencer à comprendre. C'est pas étonnant qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Pour que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, donc les autres enfants de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Oh, je croyais qu'il y avait trois dimensions. Là, il en a quatre, lui. Il dit la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, dans tous les sens. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître. Et là, on commence à connaître l'amour de Christ. Et verset 18, c'était « vous puissiez comprendre ». C'est-à-dire, c'est de saisir. Mais après, quand il dit de connaître l'amour de Christ, c'est connaître expérimentalement. C'est pas seulement que j'en ai entendu parler, mais je l'ai vécu. J'ai goûté, je sais ce que c'est. Il y a des différences entre... J'ai entendu que Dieu est amour, et mais je sais que Dieu est amour. Je l'ai vécu, je vis de son amour. Et donc, il nous dit que nous avons besoin de comprendre l'ampleur de son amour. Il dit que dans la largeur, longueur, profondeur, déjà se faire une idée sur l'ampleur de son amour. Et celui qui est là, puis dit, ah, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise, je ne sais pas si Dieu va me pardonner. Et bien, rien que le fait de penser cela, c'est que tu n'as pas une connaissance de l'amour de Dieu. Toi, tu crois que son amour, c'est petit comme le tien. Parce que moi, quand Dieu ne donne pas ce que je veux, je me fâche. Et oui, parce que ton amour pour Dieu, ce n'est pas grand-chose. Et tu penses qu'il est comme toi. Et souvent, on imagine les autres comme... C'est sûr, on ne peut pas voir les autres qu'à travers nos propres yeux. Et on les voit comme on les imagine. Et il dit, tu n'as pas une connaissance de l'amour de Dieu. Parce que si tu savais ce que c'est que l'amour de Dieu, tu serais en sécurité, tu sais qu'il peut te pardonner. Tu sais qu'il reçoit toujours. Si déjà le père du fils prodigue il a pu pardonner son fils, Jésus est en train de dire, mais si lui il a pu pardonner son fils, combien plus le Père Céleste peut pardonner un homme pécheur? Il dit, afin de connaître l'amour de Christ, qui surpasse, regardez les mots, le choix des mots, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, ça dépasse mon imagination aussi. Mais il dit, ça dépasse, ça surpasse toute connaissance, c'est-à-dire tout, c'est au-delà de ce que je peux comprendre. La connaissance, là, c'est le gnosis, c'est la science. Il dit, vous avez ce mot-là dans le mot agnostique. Agnostique, ah, c'est la négation, agnostique, c'est savoir. Donc l'agnostique, c'est celui qui dit, moi, je ne sais pas. Donc c'est la connaissance, il dit, ça surpasse toute la connaissance qu'on peut avoir. Et de manière à ce que vous soyez rempli, vous avez rempli, ce que ça veut dire rempli. Quand on vous dit de remplir quelque chose, c'est pas du demi-plein. Vous allez faire le plein à la station d'essence, ça veut dire qu'après on ne peut plus rien ajouter. Il dit que vous soyez rempli, et rempli dit de la plénitude de Dieu. Wow! Comment avoir ça? Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Eh bien, qui est la plénitude de Dieu? Regardez dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Je commence le verset 8 pour qu'on sache de qui il parle. Il dit, donc Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui, c'est-à-dire Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus-Christ est l'incarnation de la plénitude de Dieu. Et il dit alors, quand Christ est en vous, et comme Christ est la plénitude de Dieu, vous êtes remplis de la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul dit, osez demander. Mais après, il faut le vivre. C'est pas seulement, j'aimerais bien avoir ça. Il ne parle pas d'un compte en banque spirituel. Il parle de quelque chose qui est vraiment là, qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et il dit aux Éphésiens, qui sont des gens comme nous, qui vivent sur terre, ce n'est pas des anges quelque part. Il dit, voilà ma requête, ma prière pour vous. Eh bien moi, j'ai comme cette impression que cette prière, c'est valable pour toute la vie. J'aurai tout le temps besoin de cette prière. Et c'est un désir. Et c'est un peu, que je disais tout à l'heure aussi, j'ai dit, vous prenez un psaume, mais vous pouvez prendre des prières comme ça, et puis vous commencez à vous prenez ces prières comme un squelette, et puis vous y mettez de la chair dessus, vous mettez des pensées, avec vous associez des choses et vous priez par rapport à votre vie, par rapport à des domaines de votre vie, et vous dites, mais Seigneur, moi il me faut de l'amour, parce que dans ce domaine-là, j'ai pas du tout d'amour. La preuve, c'est que je suis impatient. Et puis ça, c'est autre... Et on prie. Donc il ne suffit pas de dire... finalement, il ne suffit pas de dire Jésus-Christ est Seigneur, et vous savez, tous ces cantiques contemporains où il y a tout le temps du Seigneur et on le répète et on le répète, mais plus on le répète, moins c'est vrai. Il dit ne m'en parle pas, fais-le. C'est ce que Jésus a dit dans sa parabole. Il a dit, il y avait deux fils, le père dit à l'un, il dit, va travailler dans le champ. Il dit, oui, je vais y aller. Puis finalement, il n'est pas allé. Et un autre qui a dit, oh non, je n'ai pas envie. Puis finalement, il est allé. C'est lequel le meilleur? Et puis, il est en train de dire, c'est pas, peu importe ce que tu dis, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais réellement. Et c'est ça avec nous aussi. Ce n'est pas la peine de faire de longues prières, surtout quand il y a du monde. Et après, pendant la semaine, il n'y a rien du tout. C'est le dimanche matin, on dit Seigneur, Seigneur, oui, je ferai ceci. Et puis après lundi matin, on ne s'en souvient plus. Il dit, je préfère le publicain qui se frappe la poitrine, dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Il dit, celui-là est rentré chez lui, justifié. La prière de Paul, c'est la prière de pour les saints qui sont à Éphèse. Si vous êtes enfant de Dieu, est-ce votre prière? Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, alors votre prière, c'est celle du publicain. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le pardon de mes péchés. Mais Christ est mort sur la croix. Je te demande que tu me pardonnes grâce à son sang versé pour moi. Et à l'instant où vous demandez cela, peu importe où vous êtes, lui comprend et il voit la sincérité de votre cœur et il intervient et il entend et il agit et il transforme. Et à partir de ce moment-là, une fois que je suis né de nouveau, j'ai l'enfant de Dieu, après je peux m'adresser au Père Céleste. Et lui entend la voix de ses enfants et il les reconnaît. Que le Seigneur nous aide. Il y a eu des choses qui ont été dites qui puissent toucher différentes personnes, différentes d'entre nous. Il y a des paroles, il y a peut-être une parole qui est, le Saint-Esprit a gardé une parole pour vous. Eh bien, on va donner quelques moments de silence là, pour que vous puissiez voir ça avec lui et dire, Seigneur, je t'ai entendu quand tu m'as dit sur ce point-là, je t'ai entendu, tu m'as parlé. Et je veux le retenir et je veux t'en parler encore tout à l'heure et ce soir et toute cette semaine parce que tu as mis ton doigt sur un point particulier dans ma vie.